Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 24 mai 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Quand on parle du Moyen-Orient dans l'actualité, ce sont un peu toujours les mêmes mots qui reviennent, et ça depuis des décennies.
La situation au Moyen-Orient est de plus en plus préoccupante.
C'est toujours la fébrilité diplomatique autour de la crise du Proche-Orient.
L'escalade entre l'Iran et l'Irak se poursuit.
Rupture des relations diplomatiques et invectives entre l'Arabie Saoudite et l'Iran.
On va continuer à parler des tensions au Moyen-Orient.
Vous avez sûrement beaucoup entendu ces expressions, moi aussi, tellement que je m'y suis presque habitué. Mais cette semaine, en feuilletant l'Express, je suis tombé sur une interview qui a retenu mon attention. C'est celle de Robert Greenway, un ancien diplomate de l'administration Trump. À propos du Moyen-Orient, il disait cette phrase inquiétante « Dans l'année qui vient, ou du moins dans les deux prochaines années, le Moyen-Orient va traverser la période la plus éprouvante de son histoire. »
Propos recueillis par Corentin Pernaguerre.
Les mots de cette interview sont forts, et en lisant ça, j'ai repensé à ces expressions un peu galvaudées sur la crise et les tensions au Moyen-Orient. La région a-t-elle vraiment plus de chances de s'embraser dans les mois qui viennent? C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui et demain. Épisode 1, Moyen-Orient et grandes inquiétudes. Vous avez certainement déjà compris qui était en studio avec moi aujourd'hui. Salut Corentin.
Salut Xavier.
Corentin Pénarguéard, tu es journaliste au service Monde de l'Express et tu couvres notamment le Moyen-Orient. Même si on en entend beaucoup parler, pour bien en délimiter les contours, Corentin, peux-tu glisser dans l'armoire de la loupe une définition précise de cette zone géographique ?
Alors précise, ça va être un peu compliqué parce qu'en réalité, le Moyen-Orient, c'est une zone un peu artificielle coincée entre l'Europe et l'Asie du Sud-Est. Bon, je peux être simple, par contre, on va dire que ça va de la Turquie et de l'Égypte à l'ouest jusqu'aux frontières de l'Afghanistan à l'est. Donc à l'intérieur, ça te laisse pas mal de pays, notamment les pays du Golfe, Israël, la Syrie ou l'Iran.
Merci Corentin, je range ça entre zone Indo-Pacifique et Arctique. Tu as donc interviewé Robert Greenway, cet ancien diplomate de l'administration Trump et actuel directeur de l'Institut des Accords d'Abraham. Pourquoi fait-il cette prédiction alarmante que j'ai citée au début du podcast ?
Alors en fait, Robert Greenway, il passe beaucoup de temps sur le terrain au Moyen-Orient pour développer les liens entre Israël et les pays arabes. Alors évidemment, le Moyen-Orient, hein, c'est connu pour ses crises, ses guerres, t'en parlais tout à l'heure. Ça fait 10 ans qu'il y a une guerre en Syrie, ça fait 8 ans au Yémen. Mais en fait, Robert Greenway, il est hyper inquiet en ce moment parce que d'après lui, en fait, t'as 5 ou 6 pays de la région qui sont tellement fragiles qu'ils pourraient basculer au même moment. Alors qu'en temps normal, c'est plutôt 2 ou 3 qui sont dans ce genre de situation. Alors pour lui, la situation, elle est tellement tendue qu'une petite étincelle, une attaque contre Israël ou des révoltes, ça pourrait complètement déstabiliser le Moyen-Orient dans l'année à venir ou même dans les deux prochaines années. Comme il l'a dit dans l'interview que tu as lu, et en fait, il pense que ça peut arriver à cause de nouveaux ingrédients qui se sont ajoutés à un cocktail qui était déjà assez explosif.
Alors, quels sont ces nouveaux ingrédients, Corentin ?
En fait, ces nouveaux ingrédients, ils arrivent directement d'Ukraine. C'est la flambée du prix des hydrocarbures, c'est la flambée du prix des aliments, notamment du blé et donc du pain. Et ce sont aussi les pénuries alimentaires qui commencent à arriver un peu partout au Moyen-Orient.
Il y a une urgence qu'on constate partout au Moyen-Orient avec cette flambée des prix.
Je vous présente David Kalfa. Il est chercheur associé à l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. et il va nous accompagner tout au long de cet épisode.
Et en plus, c'est une région qui dépend vraiment des matières premières, de ce qu'on appelle le grenier de l'Europe, donc qui dépend vraiment du blé russe et ukrainien, et qui donc est en train d'en payer le prix de façon assez catastrophique.
Corentin, cette crise alimentaire, elle touche beaucoup de pays au Moyen-Orient ?
Ouais, c'est flagrant, hein. Tu vois déjà en Égypte et en Iran le prix du pain qui a triplé ces dernières semaines. Même chose pour l'huile ou tous les produits de base dans des pays qui sont très touchés par les crises économiques déjà, hein, comme la Turquie ou encore pire, le Liban. Et en fait, on commence à voir des manifestations assez importantes qui sont liées à cette inflation sans précédent. Ça se passe surtout en Iran ces dernières semaines, dans un pays où plus de la moitié de la population est déjà sous le seuil de pauvreté.
Le prix du pain ou de l'huile, voici donc des conséquences très concrète de la crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine. On avait évoqué cet enjeu planétaire dans un épisode que je vous conseille d'aller écouter. Des produits de première nécessité de plus en plus chers dans des pays déjà fragilisés. J'ai demandé à David Kalfa si cette situation pouvait dégénérer.
On assiste quand même depuis, on va dire, l'échec des printemps arabes à un renforcement des logiques policières et autoritaires au Proche et au Moyen-Orient avec des régimes qui ont vraiment serré la vis et qui n'entendent pas se faire déborder par la rue et sont prêts à utiliser la force si besoin est. Je ne crois pas, on n'en est pas à un stade où la situation pourrait leur échapper. En revanche, si dans les prochains mois, on ne trouve pas de solution, notamment à la question de la fourniture de biens de consommation communs, notamment le blé, avec une inflation galopante, là, oui, ça pourrait leur échapper, et on pourrait assister, ici et là, à des explosions sociales avec une traduction politique possible.
Des explosions sociales guettent donc certains pays de la région, mais il y a un endroit très sensible où la violence a déjà fait son retour. Il est temps d'aller voir ce qu'il se passe en Israël et dans les territoires palestiniens.
Alors là, on est à Jérusalem, c'est le 13 mai, et des policiers israéliens sont en train de charger un rassemblement autour du cercueil de Shiren Abu Akleh. C'est une journaliste américo-palestinienne d'Al Jazeera. Et en fait, elle a été tuée pendant une opération israélienne en Cisjordanie. C'est une figure vraiment chez les Palestiniens, et sa mort a provoqué une grande émotion à la fois dans la communauté palestinienne, mais aussi partout dans le monde. Et en fait, ces scènes de violence autour de ses funérailles, avec son cercueil qui était pas loin de toucher le sol, ça a vraiment choqué le monde entier.
Oui, ces images, la plupart de nos auditeurs les ont certainement vues, Corentin. Pourquoi tu nous en reparles ?
En fait, cette scène, c'est l'aboutissement de plusieurs semaines de violence en Israël et en Cisjordanie. Depuis 2 mois, il y a une série d'attentats contre des Israéliens, il y a eu des heurts sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem et une réponse très musclée, on va dire, de l'armée israélienne qui allait démanteler des cellules du Hamas en Cisjordanie avec des échanges de tirs et des morts des deux côtés. Alors, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une situation aussi tendue sur le terrain et forcément, ça laisse craindre que le conflit israélo-palestinien se réveille de nouveau.
En Israël et les territoires palestiniens, on est dans une situation politico-diplomatique complètement gelée. Ça fait belle lurette qu'il n'y a pas eu de négociation directe entre les Palestiniens et les Israéliens. Et évidemment, en l'absence d'horizon diplomatique, de débouchés diplomatiques, le risque d'affrontement est toujours élevé. Et on voit bien à quel point la situation est fragile.
Corentin, comment on explique cette absence de négociation directe entre Palestiniens et Israéliens ?
En fait, des deux côtés, tu as un climat politique très instable et personne n'a vraiment la légitimité pour négocier côté israélien ou même palestinien.
Alors, on va commencer côté israélien ?
Écoute, c'est pas le plus simple. Depuis un an environ, tu as une coalition de 8 partis politiques au gouvernement. Ça va de la gauche à l'extrême droite. Et donc, en fait, même entre eux, au sein du gouvernement, ils sont pas d'accord sur la question palestinienne et ils n'envisagent pas du tout de résoudre ce conflit.
Et côté palestinien ?
En fait, côté palestinien, tu as 2 grands partis, le Fatah qui contrôle l'autorité palestinienne en Cisjordanie et le Hamas qui contrôle la bande de Gaza plus au sud. Alors bon, le Hamas s'est considéré comme une organisation terroriste, y compris par les États-Unis et l'Union européenne, donc c'est très compliqué forcément de négocier avec lui. Et en fait, de l'autre côté, tu as l'autorité palestinienne qui n'a presque plus aucune légitimité. Son président Mahmoud Abbas, il est au pouvoir depuis 2005. Et à chaque fois qu'il y a des élections prévues, en fait, il trouve une excuse pour les repousser. Alors bon, c'est très pratique pour rester au pouvoir, mais de fait, en fait, il contrôle plus grand-chose chez les Palestiniens. Les habitants ne l'écoutent plus. Et en face, tu as le Hamas qui prône une politique beaucoup plus agressive envers Israël.
On a donc une succession de violences depuis plusieurs semaines, un climat politique fragile des deux côtés. et une région où l'on connaît la force des images comme celle que tu nous as décrite, se dirige-t-on vers un nouveau soulèvement palestinien, une troisième intifada ? Voici la réponse de David Kalfa.
Je ne le crois pas, parce que l'autorité palestinienne comme Israël n'ont pas un intérêt à une explosion en Cisjordanie. L'autorité palestinienne parce que sa survie dépend d'un minimum de calme en Cisjordanie et réciproquement Israël. Son intérêt, c'est de maintenir ce calme pour éviter de se retrouver dans un conflit de basse intensité qui pourrait durer en Cisjordanie et qui pourrait justement aboutir à des attaques qui se multiplieraient en territoire israélien. Mais le plus probable, en tout cas dans un premier temps, c'est qu'on assiste à des affrontements sporadiques, localisés, avec d'un côté les attaques terroristes en Israël, de l'autre une répression de l'armée qui peut parfois aboutir à des bavures.
Il faut ajouter aussi que l'appareil sécuritaire israélien, il est bien plus au point pour prévenir ces menaces qu'il y a quelques années. Par contre, la grande question, on ne sait pas jusqu'à quel point l'autorité palestinienne peut garder un semblant d'autorité en Cisjordanie. Et dans une situation hyper tendue comme maintenant, en fait, ça peut dégénérer très facilement.
Pas de troisième intifada pour l'instant, donc, mais le regard d'Israël est aussi tourné hors de ses frontières vers un tout autre danger.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alors, je reprends ton interview, Corentin. J'avais surligné une phrase de Robert Greenway.
Laquelle ?
Celle-ci. Celle où il dit « L'Iran, son réseau d'affidés et de milices n'ont jamais été aussi présents et menaçants. Il menace Israël, il menace le détroit d'Ormuz, il menace les États-Unis. »
Ouais, c'est sûr, hein, l'Iran, c'est la grande inquiétude des Israéliens.
Et quels sont ces réseaux d'affidés et de milices dont il parle ?
Alors, tu vas voir, c'est très simple.
Ah bon ?
Bon, pas vraiment en fait, hein. Mais bon, je vais essayer de te résumer. Dans l'islam, tu as deux grands courants, le chiisme et le sunnisme.
Oui.
L'Iran, c'est le grand pays chiite, et donc il s'appuie sur les populations chiites des autres pays du Moyen-Orient pour placer ses pions un petit peu partout, et surtout dans les pays les plus fragiles. Donc si tu prends une carte de la région, fait, Téhéran, ils ont des atouts, des milices un peu partout, et ils grappillent de l'influence. Par exemple, en Irak, depuis la chute de Saddam Hussein, en fait, l'État irakien, il ne réussit pas vraiment à contrôler l'ensemble de son territoire. Et l'Iran, ils en ont profité pour installer des hommes politiques qui leur sont favorables, mais aussi des milices armées qui combattent l'armée irakienne, qui gagnent des territoires et qui font en sorte que l'État irakien reste très faible et donc à la merci de l'Iran.
Ok, ça c'est pour l'Irak. Les pions iraniens, tu les places où ailleurs maintenant sur la carte ?
En fait, tu les retrouves aussi en Syrie, par exemple, mais aussi au Yémen. Et puis évidemment, tu as le Hezbollah au Liban, qui est un parti politique presque majoritaire au Liban, mais aussi une organisation militaire complètement sous la coupe de l'Iran.
La manière dont cette puissance régionale iranienne est perçue par Israël et les pays du Golfe, c'est principalement comme une puissance qui a l'ambition en tout cas d'être hégémonique et qui opte pour une stratégie d'encerclement. Donc il y a une vraie crainte, hein, et puis c'est la Jordanie qui avait parlé de croissant chiite, il y a une vraie crainte, si vous voulez, d'une espèce d'emprisme progressif de l'Iran et de ses affidés au Levant, une crainte partagée et par les puissances arabes sunnites et par Israël.
Corentin, comment Israël et les pays du Golfe s'organisent-ils pour faire face à ce croissant chiite ?
Alors, de deux manières principales. Déjà, la première, tu as des réponses militaires directes d'Israël, qui fait des opérations ciblées déjà en Iran, mais qui bombarde aussi des installations militaires iraniennes en Syrie et en coordination avec la Russie, qui contrôle le ciel syrien. Et la deuxième manière, c'est plus diplomatique, ce sont de nouvelles alliances qui ont été créées et qui se mettent en place contre l'Iran principalement. Le symbole le plus visible de tout ça, ce sont les accords d'Abraham qui ont été signés en 2020.
Israël et les Émirats arabes unis ont annoncé le 13 août un accord conclu sous l'égide des États-Unis pour une normalisation de leurs relations.
Alors les ventes d'armes et la coopération militaire entre Israël et les pays du Golfe, elles ont explosé ces dernières années. Rien que l'année dernière, hein, pour prendre un exemple très concret, l'industrie israélienne elle a vendu pour 800 millions de dollars d'armement aux pays signataires des accords d'Abraham. Et en novembre dernier, l'armée israélienne a même réalisé des exercices militaires conjoints avec les Américains et avec les Émiratis pour préparer une attaque éventuelle de l'Iran.
Et côté iranien, justement, comment on voit ces alliances de plus en plus solides ?
Alors pour l'instant, l'Iran a pas mal d'autres choses en tête. Il doit faire face à une explosion des prix de l'alimentation, à des manifestations de plus en plus importantes, comme je le disais tout à l'heure. Et surtout, Téhéran espère conclure un accord international sur son programme nucléaire assez vite. Ça pourrait changer pas mal de choses dans la région, mais je t'avoue que ça va être un petit peu court ici pour expliquer tout ça.
Alors, t'inquiète pas, on avait prévu 2 épisodes sur le sujet, donc tu reviens demain ?
Ah bah, très bonne idée, on se voit demain.
Corentin Pénarguéard du service Monde de l'Express. Je rappelle qu'on peut retrouver tous tes articles sur notre site internet. Et profitez-en, en ce moment, l'abonnement numérique ne coûte que 99 centimes pour 3 mois. Et pour être sûr de ne pas rater la suite et tous les prochains épisodes de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Cros et Lison Verrier.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.